Mayami Chalon est éditrice, elle est notre invitée.
Et c'est avec grand plaisir que je la reçois. Bonjour Maya.
Bonjour François.
C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici même à Manosque et puis dans toute la région et qui a pris un virage assez intéressant dont on va parler avec elle. On l'a connue animatrice d'une association notamment de lecture jeunesse. On l'a connue également commentatrice et modératrice sur les correspondances de Manosque. On l'a connue actrice dans bien des domaine toujours lié à la littérature, notamment dans une maison d'édition qui est aujourd'hui sur Marseille. Et désormais, elle est éditrice depuis pas très longtemps, Maya.
Bientôt 2 ans.
Depuis 2 ans quand même.
Presque.
Quand même. L'école des loisirs, c'est une grosse maison d'édition.
C'est une grande maison d'édition, c'est une très belle maison d'édition. C'est une maison d'édition qui, depuis 1965, cherche à mettre au service des enfants, à la disposition des enfants, des textes magnifiques qui suscitent l'imaginaire, qui initient à la poésie de la langue, au jeu sur les mots, aux histoires, à la narration. Donc c'est une grande maison d'édition, c'était un grand honneur d'être invité à les rejoindre.
Et pour vous, c'est aussi un virage intéressant tout d'un coup de dire « je pars du territoire, du terrain pour aller proposer dans des librairies des livres d'auteurs qui m'ont plu ». Et votre première réalisation, c'est en plus, ça nous fait très plaisir. Alors ça s'appelle « Home Sweet Home », c'est le titre du roman, et c'est écrit par Antoine Filias, qu'on ne connaît pas bien, mais c'est écrit aussi, co-écrit par Alice Zeniter, qu'on connaît bien et que vous connaissez bien, puisque c'est une habituée des correspondances de Manosque et que vous la croisez régulièrement.
Oui, Alice Zeniter a été invitée plusieurs fois aux correspondances. Elle a fait une résidence en 2013 et c'était à cette occasion que j'ai pu la rencontrer. Donc une première rencontre avec elle autour de Sombre Dimanche, c'était le roman pour lequel elle avait été invitée. Et puis comme elle est restée plusieurs mois, on a eu l'occasion de se voir, de se revoir et de tisser quelques liens. Donc j'étais très heureuse d'avoir l'occasion de travailler avec elle autrement cette fois, c'est-à-dire dans l'accompagnement d'un texte qu'elle me proposait.
Alice Zeniter, auteure magnifique qui a écrit L'art de perdre, qui a raté d'un cheveu le Goncourt l'année dernière pour des raisons que je pourrais vous expliquer hors antenne éventuellement, mais qui a beaucoup de talent et en même temps à qui je pense avec qui vous avez de noué des relations d'amitié littéraire. Et en même temps, ce livre, il est le fruit un petit peu de cette relation.
Oui, alors vous avez précisé qu'elle avait raté le prix Goncourt, mais elle a eu le prix Goncourt des lycéens.
Oui, ce qui aujourd'hui
est encore plus prescripteur que le Goncourt. Donc finalement, c'était un mal pour un bien.
Ils sont plus indépendants.
Ils sont plus indépendants et il se trouve que les chiffres de vente qui suivent sont meilleurs aujourd'hui avec un prix Goncourt des lycéens. Ça, c'est évidemment une précision à part. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'est que justement, on sentait que déjà avec sa production de livres adultes, donc chez Michel Pichet Flammarion aujourd'hui, Alice Zeniter touchait des lecteurs plus jeunes, des lecteurs lycéens, donc des lecteurs adolescents, ce qui faisait une transition finalement assez naturelle pour elle d'aller chercher un texte, d'aller se tourner plus nettement vers ce lectorat-là. Donc la transition était assez intéressante. Donc effectivement, c'était dans le prolongement, dans la suite de nos différents échanges et différentes rencontres qu'elle a eu envie de m'envoyer ce manuscrit qu'elle avait donc coécrit avec Antoine Filias. Donc évidemment, pour un premier projet à l'École des loisirs, j'étais très heureuse de le faire avec elle.
Bien servi là, effectivement. Antoine Filias, alors donc c'est une amitié. On sait qu'Alice Zeniter aime bien travailler avec d'autres artistes, avec d'autres, et pas forcément des écrivains, ça peut être des musiciens, des comédiens.
Des photographes,
exactement. Et donc Antoine Filias, vous le connaissiez ?
Pas du tout, je ne le connaissais pas. Alice et Antoine se sont rencontrés à Rennes par le biais d'amis communs. Il se trouve qu'Antoine, lui, est plutôt tourné vers la musique. C'est un grand amateur de Bob Dylan. Donc, il écrit pour la musique, mais il écrivait aussi des romans, des manuscrits. Jusque-là, il n'avait pas été édité, mais quand Alice l'a rencontré, elle a eu l'occasion de lire ses manuscrits et elle a été très touchée par son écriture. Et donc, lui est venue l'idée de l'inviter à écrire avec elle sur un sujet qui les rassemblait. Donc, ce projet-là est né ensemble. Donc, ils ont travaillé ensemble pendant un an et demi avant de me proposer le manuscrit. Mais Antoine, c'est sa toute première publication. Donc, c'est un peu une histoire des premières fois. C'est le premier roman adolescent d'Alice Zeniter, le premier roman tout court, pour la première publication d'Antoine Filias et ma première expérience en tant qu'éditrice. Donc c'est, voilà, il y a aussi un premier amour, donc on l'appelle le roman des premières fois.
Il y a beaucoup de choses, et effectivement, c'est des choses uniques, et c'est parfait, c'est parfait. On va parler de ce livre maintenant, si vous voulez bien. Home Sweet Home, alors vous l'avez compris, c'est la maison doux foyer, comme on dit dans les westerns. Ça se passe donc aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, mais à une période très précise, très particulière. C'est 2008, et souvenez-vous, 2008, c'est la crise des subprimes. Autrement dit, la moitié, pour pas dire les trois quarts des États-Unis et des Américains qui sont ruinés et qui partent à la rue. Et c'est une histoire d'adolescents et d'enfants qui vont se retrouver de manière fortuite ou pas, on ne sait pas trop, dans un endroit désaffecté qui est un ancien lycée, où ils ont peut-être suivi d'ailleurs leurs études, et qui vont essayer de vivre ensemble pendant un moment. Quand je dis vivre ensemble, c'est plutôt de survivre.
Oui, on retrouve ce que la littérature a déjà exploré sous différentes manières, ce motif de la bande d'adolescents en mode survie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui motivait beaucoup les auteurs. Ce qui se distingue un peu des littératures qu'on a pu avoir jusqu'ici, par exemple Sa Majesté des Mouches ou autres romans dans cette veine-là, c'est que le contexte, lui, est réel. C'est-à-dire qu'on est effectivement en 2008 à Cleveland, dans l'Ohio, au nord des États-Unis, au bord du lac Erie. Cleveland, c'est une ville industrielle mais assez populaire, assez modeste, et qui a été touchée de plein fouet par la crise. Donc à Cleveland, en quelques mois, et ça c'est la réalité d'il y a une douzaine d'années, en quelques mois, 10 000 foyers se sont retrouvés à la rue. Les gens ont été dépossédés des maisons pour lesquelles ils avaient souscrit des emprunts et qu'ils n'arrivaient plus à honorer. Donc socialement, ça a été un effondrement. Et c'est ce qui a à la fois passionné les auteurs et qui leur a permis de créer un contexte fort pour leur histoire. C'est-à-dire que dans ce contexte réel d'effondrement social, on peut imaginer qu'une bande d'adolescents fuit ses foyers en faillite, qui s'effondrent, pour essayer de reconstruire quelque chose un peu loin du modèle parental qui n'a pas fonctionné.
Et ils se retrouvent tous ensemble dans des réunions improbables jusqu'à retrouver un autre groupe d'adolescents beaucoup moins fréquentables peut-être dans un deuxième temps. Mais ils vont apprendre à vivre ensemble, à survivre ensemble aussi. Et là, il y a quelques leaders qui vont émerger avec des personnalités. Et c'est l'un des aspects de ce roman, c'est qu'on est tout de suite plongé dans la personnalité des personnes. Les chapitres portent les prénoms des personnes qui vont s'exprimer. C'est un style voulu.
Oui, les auteurs ont trouvé intéressant de faire s'exprimer deux personnages principaux, Anna et Elijah, en alternance. Donc c'est une sorte de journal à deux voix après les événements qu'ils ont traversés, après leur aventure. Donc ils reprennent contact et ils se racontent l'un à l'autre cette expérience qu'ils ont vécue de manière parfois différente. Ça leur permettait aux deux auteurs de faire entendre deux voix différentes, avec des styles différents aussi, puisque Anna vient d'une famille modeste, donc son expression est plus orale, sa grammaire est plus bousculée. Elijah, lui, est plutôt un fils à papa promis à un chemin universitaire assez classique qu'il refuse. Et lui, donc, a été élevé dans une famille un peu plus aisée, mais il est quand même dans la difficulté d'être confronté au divorce de ses parents. Et son père, qui lui pourtant était cadre, a lui aussi été licencié et victime de la crise. Ça permettait de montrer qu'il n'y avait pas que les milieux modestes qui avaient été touchés durement, évidemment. Ils l'ont été, et ce furent les premières victimes, mais les petits cadres aussi des banques, de certaines institutions ont été eux-mêmes licenciés. Donc il y avait ces deux origines sociales qui se mêlaient, se rencontraient, se confrontaient avec des expériences différentes, et ça permet quand même des échanges intéressants du coup entre les deux.
Et autour de ces deux personnages, il va y avoir une douzaine de jeunes très très différents, dont une jeune fille mutique qui parle pas beaucoup mais qui danse magnifiquement et qui nous ravit enfin par ce qu'on imagine d'elle. Il y a beaucoup d'histoires de survie. Effectivement, ils vont essayer de trouver de la nourriture, d'essayer de trouver des moyens de subsister tout simplement. Et puis de temps en temps, ils vont faire des sorties tous ensemble et pour essayer de voir comment c'est à l'extérieur. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ils ont investi un lycée qui est resté en l'état. C'est-à-dire que depuis un an, il fonctionne plus, il n'y a plus d'élèves, hein, il n'y a plus rien. Mais l'électricité fonctionne, il y a encore des choses au fond du congélateur, il y a des masses de documents, de choses qu'ils peuvent utiliser. Et bref, il y a une vie qui s'est arrêtée brutalement dans ce lycée. Et eux, ils vont... Alors vous imaginez, un lycée aux États-Unis, c'est un petit village, hein, un petit village.
C'est une sorte de paquebot. Moi,
c'est
j'imagine
ça.
Comme
c'est
un
ça.
Paquebot. Ce lycée, effectivement, leur donne quelques moyens de survie. Ils utilisent et ils s'en servent, leur donne un toit. Le fameux home sweet home, hein, c'est ce foyer doux qu'ils n'avaient pas à la maison et qu'ils essayent de reconstruire. On le voit d'ailleurs sur la couverture. On a une scène de toit-terrasse sur la couverture. Et j'aime beaucoup ce choix qu'a fait Laure, qui travaille les couvertures pour l'école et loisirs, qui a choisi donc cette image dans laquelle un jeune homme fait un toit avec ses bras. C'est-à-dire qu'il a les deux mains sur la tête et il dessine finalement le toit, et qui veut dire symboliquement à l'intérieur du roman, ils vont essayer de reconstruire ce toit avec leurs bras. Parce que le toit fuit, le toit du lycée fuit, prend l'eau, il fait pas très chaud, donc on peut tomber malade aussi. Donc il y a à la fois, c'est un abri, mais un abri à l'abandon, donc il faut survivre au sein même de ce lycée. Et puis il y avait l'envie très forte pour les deux auteurs, Antoine Filias et Alizée Niter, d'être au sein de l'école, parce que d'après eux c'est aussi là que tout se joue. C'est-à-dire quel est le rôle de l'éducation, comment est-ce qu'on prépare des citoyens de demain, quelles valeurs on leur transmet, est-ce qu'on les prépare à un monde de compétition, de course à la réussite, de gains financiers, de gains d'argent. On voit bien que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Ou est-ce que on essaye de leur transmettre des valeurs d'entrée, des échanges sur la religion, sur la place des femmes et tout un tas de sujets de société qui fait qu'ils seront peut-être plus armés pour affronter ensuite le monde dans lequel ils seront jetés adultes.
On rappelle que ça se déroule aux États-Unis en plus, hein, donc le pays des extrêmes à tous ces niveaux, que ce soit le capitalisme ou la misère,
oui.
Ce sont des choses terribles. C'est aussi un endroit où il faut se cacher, il faut pas être vu de l'extérieur parce que la police peut toujours arriver. D'ailleurs, à un moment, ça va leur échapper, mais la police va rentrer. Et puis, il y aura un dénouement un peu particulier aussi. Je vous laisserai évidemment lire ce roman pour voir comment ça se déroule. Mais à l'intérieur, il y a des personnalités qui s'affrontent parfois ou qui se complètent. On a des échanges assez particuliers. Et puis, au niveau du style, on reconnaît bien le style, en tout cas celui d'Alizée Niter. Vous permettez que je lise un extrait, Maya ? Alors, vous ne savez pas ce que je vais lire.
Hein. Non,
donc,
j'aime bien les surprises.
C'est vraiment aux États-Unis que ça se passe. Et c'est... Voilà, j'enlève mes lunettes. Et c'est Anna qui parle. C'est le 12 décembre, hein, donc on n'est pas très très loin de Noël. Et bon, ils sont tous réunis, tous les enfants, là. Et c'est l'espace de discussion sur les religions. On va parler de ça, justement. C'était sûrement difficile pour l'intervenant, mais les autres passaient un bon moment. Quand ça a été au tour de Dalila... Elle est montée sur l'estrade en souriant, une Bible dans les bras, elle a vite déchanté. Pourquoi on fête l'anniversaire de Jésus alors qu'il est mort? Comment il a fait Noé pour sauver les poissons et les oiseaux? J'ai pas compris, c'est pardonne ton prochain ou c'est œil pour œil? T'as rien compris, c'est dent pour dent, même que Jésus, il est plus fort que Superman, il peut ressusciter et tout. Dalila a lâché l'affaire, c'est Lily qui a pris la relève pour rappeler que la Bible c'est pas un truc à prendre au pied de la lettre. Les aventures d'Abraham, Job et Noé nous enseignent des notions de générosité, de loyauté, de bienveillance, c'est des paraboles. Les paraboles c'est comme des satellites, a osé Chris qui manquait jamais d'imagination. Et Dieu il nous observe depuis l'espace? Ah ça c'est une bonne question, hein, presque gueulé Oli. Dieu voit quoi en fait? Parce que moi, ma mère, chaque fois que je faisais un truc qu'elle n'aimait pas, elle me disait « Dieu te voit ». Genre quand je me mettais le doigt dans le nez, ou la fois où elle m'a chopé en train d'arracher les ailes à une mouche. Elle a raison, a dit Lily de manière automatique, « Dieu te voyait ». Mais pourquoi est-ce qu'il regardait? S'il peut tout voir, il devait y avoir un tas de trucs plus intéressants. Le gars, il a toutes les chaînes câblées, mais il regarde la mienne. Intéressant, ça.
Oui, j'aime beaucoup cet échange, effectivement. Et les auteurs ont choisi de composer leur groupe de deux générations. C'est-à-dire qu'on a Anna et Elijah qui ont environ 17 ans. Et puis, ils sont accompagnés de plus jeunes
qu'eux.
Notamment les deux frères jumeaux d'Anna qui ont 8 ans, Chris et Bog. Et puis, il y a Dalila, il y a Bart, il y a Zou, donc des plus jeunes. Et en fait, il y a une histoire de transmission où il va falloir aussi essayer d'expliquer ce monde-là aux plus jeunes. Donc, le dialogue est double. On s'adresse au lecteur, on lui propose une version, et puis à l'intérieur du livre, les plus petits vont questionner les plus grands sur ce monde, sur les aberrations, les paradoxes, les contradictions de ce qu'on leur enseigne, de ce qu'ils peuvent observer, de ce qu'ils peuvent imaginer aussi. Alice Zeniter et Antoine Filias parlent très bien de ce qu'ils ont voulu développer, de manière évidemment très, très littéraire et très, très imagée, mais c'est cette confrontation entre la fiction des adultes et la fiction des enfants. Les adultes ont tendance à mépriser gentiment ou avec un regard, à poser un regard moqueur sur les plus jeunes qui vont croire au Père Noël, qui vont croire à la souris de la petite dent. Aux États-Unis, c'est la fairy tooth, c'est la fée des dents. Donc des petites fictions qui les maintiennent dans une sorte de rêverie, d'imaginaire, et on s'en moque un petit peu gentiment, on aime bien piéger nos enfants avec ça. Les enfants, eux, observent les adultes qui, eux, croient à d'autres fictions bien plus dangereuses, c'est-à-dire notamment celle du fait, l'attrait pour la propriété. C'est aussi une fiction. Croire que le jour où on sera propriétaire d'une maison, on sera plus heureux. Beaucoup se sont plantés, beaucoup y ont cru, et quand ça ne marche
notamment
pas, ça s'effondre.
Notamment en
2008, oui. Évidemment. Donc tous ces dialogues-là sur deux générations permettent de souligner des choses et de mettre les adultes et les plus grands face à leurs contradictions.
Alors ça, c'était pour le style. Comment ça se passe lorsqu'on est éditrice et qu'on doit conseiller, voire faire des remontrances sur un écrit à un auteur, Maya? Vous est arrivé?
Des remontrances, non, pas encore, parce que peut-être que ça arrivera, mais je crois pas du tout. Non, le métier d'éditeur est un métier vraiment passionnant, que je suis ravie d'exercer aujourd'hui, mais assez méconnu, en fait. Quand j'en parle maintenant autour de moi, je me rends compte que même des grands lecteurs, même des gens professionnels de la chaîne du livre n'ont pas forcément idée de ce que ça engage vraiment comme en tant qu'éditrice ou en tant qu'éditeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée qu'un éditeur va accepter ou non un manuscrit, donc un auteur écrit un texte, le lui envoie, et on sent que ça nous plaît ou que ça nous plaît pas. Évidemment, il y a cette première étape. Mais une fois que le texte nous a plu, il est très rare qu'un texte envoyé soit prêt à être édité, c'est-à-dire prêt à devenir un livre. Donc là, il s'enclenche un dialogue plus ou moins long, ça peut prendre 3 ou 4 mois comme 2 ans, 3 ans parfois, d'aller-retour et de dialogue donc entre l'éditeur et l'auteur, les auteurs dans ce cas-là. Moi, j'ai considéré Antoine et Alice comme une entité. Je me suis aperçue que quand je m'adressais à eux, il m'intéressait peu de savoir qui avait écrit quoi. Je leur faisais un retour sur ma réception du texte.
Ça reste un mystère d'ailleurs, et c'est très bien.
Ça reste un mystère, on peut en parler, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le texte existe et qu'il soit porté par leurs deux énergies, qui étaient très complémentaires. Les retours que j'ai pu faire aux auteurs, c'est-à-dire que je parle plutôt de retour de lecture que de remontrance, on n'est pas là pour les gronder, mais pour être leur premier lecteur et pointer les incohérences, ce qui ne fonctionne pas. Alors, en quelques mots, il y avait, je trouve, au départ, trop de personnages dans ce roman. Il y avait aussi un chien, et ça c'est mon petit garçon qui aime beaucoup cette histoire, il y avait un chien, Cusco, qui à mon sens n'apportait pas grand chose à l'histoire. Et donc j'ai dit aux auteurs, peut-être qu'on peut supprimer le chien, parce que mon fils a trouvé très très violent. Je leur explique qu'un autre éditeur ou une autre éditrice que moi, très sensible aux animaux ou aux chiens, aurait peut-être au contraire suggéré que ce chien aurait pu rencontrer une chienne, avoir des petits, et qu'il y aurait eu plein de chiens dans cette histoire. Donc un roman, c'est aussi le fruit d'un travail entre un auteur et un éditeur et deux sensibilités qui s'accordent. Donc j'ai parlé du nombre de personnages, du chien. Il y avait aussi, d'après moi, pas assez d'humour. Je sais qu'Alice Zeniter est très drôle à l'oral. C'est une femme très 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 vive et très très drôle. Et je lui ai dit, mais profites-en. Là, on est avec Alice Ado. Alice, elle a un rapport à la littérature très, très, assez, assez sérieux. C'est quand même, elle est normalienne. Elle a un rapport à la langue très sérieux. Et là, on l'a invitée à distiller son humour dans les pages.
L'extrait que je viens de lire en est un exemple.
Voilà, exactement. Ça manquait aussi de sensualité. Je ne dévoile rien, mais il y a une histoire d'amour entre deux personnages dans le roman.
Qui se découvrent en plus, hein, parce que ce sont des adolescents.
C'est
donc,
ça, ils se découvrent, mais dans les premières versions du texte, ils s'embrassaient dans la bibliothèque et ça s'arrêtait là. Je leur ai dit, ben là quand même, ils ont 17 ans, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas les parents. À mon avis, ils ne vont pas se regarder dans le blanc des yeux et faire un Scrabble. Donc, on a ouvert aussi cette voie-là. Et là, c'est Antoine qui s'est emparé de la scène pour écrire les premiers émois entre les deux et leur première expérience.
Avec le regard en plus du public derrière qui imagine, qui subodore, etc. etc.
C'est assez
comique.
Il y a un petit qui les surprend au début, juste quand ils s'embrassent. Et effectivement, ça donne lieu à plein de fantasmes pour lui. Il a peur qu'il tombe enceinte et qu'ils ne vont pas savoir s'occuper de bébé. Ça crée de l'angoisse. Donc, il y avait tous ces paramètres-là. Et il y avait aussi, dans les premières versions, d'après moi, encore une fois, un manque de difficulté. C'est-à-dire que je leur ai dit, votre bande-là, elle fonctionne bien, elle existe bien très tôt. Les personnages étaient très incarnés, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce roman. On les rencontre vraiment. Je crois qu'on les retient une fois qu'on a refermé le livre, on se souvient d'eux. Et c'est ce qui me touche beaucoup. Mais il n'y avait pas assez de maladies, de poux, les règles qui arrivent chez une petite fille. Ça permet d'aborder cette question-là. Et donc, le texte s'est corsé, leur situation s'est corsée au fil de notre travail pour vraiment atteindre une justesse et être, voilà, c'est le mot que je cherche vraiment, toujours, l'état que je cherche, la justesse. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une bande d'adolescents passe un hiver sans tomber malade? Non, il y a forcément un épisode de fièvre et puis l'arrivée des règles qui peut compliquer les choses.
Donc c'est dans Home Sweet Home, ça c'est le roman, un roman magnifique que je vous invite à lire, évidemment. Une fois que ce roman est édité et qu'il est publié, où s'arrête et où redémarre peut-être le rôle de l'éditrice, Maya?
Alors, on a la chance à l'École et Loisirs d'être dans le confort d'une grande maison qui fait qu'il y a de nombreux services. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Souvent, les petites maisons d'édition sont portées par 3 ou 4 personnes qui couvrent l'ensemble des tâches à accomplir. C'est souvent très, très intense. À l'École et Loisirs, on n'a pas moins de travail, évidemment, mais en tout cas, on a des tâches très spécifiques et très, très définies. Et ça, c'est un grand confort. C'est-à-dire que moi, une fois que le texte était prêt à être édité, j'ai pu passer à d'autres projets. Je suis en train de préparer d'autres romans pour l'année 2020. Par contre, évidemment, on est investi affectivement aussi et professionnellement dans ces romans que nous accompagnons. Et donc, on a à cœur d'en parler, que la presse en fasse écho, que les auteurs soient invités à rencontrer les lecteurs. Donc il y a à la fois une sorte de veille et d'accompagnement, mais qui est plus de l'ordre du réseau et de la rencontre que du vrai travail. Il y a un service de presse à l'École des loisirs, un service de communication, qui ensuite font ce travail
c'est
magnifique.
C'est plutôt confortable pour
voilà,
vous.
Voilà, c'est-à-dire que si on a une rencontre et une invitation, bien sûr qu'on peut y répondre, mais notre mission s'arrête vraiment à la concentration sur le texte, qui est un grand confort.
C'est un livre qui est distribué, diffusé royalement partout.
Dans toutes les librairies, dans toutes les grandes enseignes. L'École et Loisirs a le confort aussi d'avoir une équipe de représentants spécifiques à la maison, c'est-à-dire que les gens qui se déplacent toute l'année dans nos régions pour rencontrer les libraires et leur annoncer le programme de parution ne portent que le catalogue de l'École et Loisirs, de Rue de Sèvres et de Globe, donc les trois entités de la maison, et ne portent pas d'autres catalogues. Donc ça, il y a vraiment, on en parlait hier avec Marie-Aube de la Carline, il y a vraiment ce maillon-là est très soigné, parce que le relais entre le travail éditorial et la parution du livre dans les librairies va être vraiment porté par des gens qui sont très très investis et concentrés sur le catalogue de l'École des loisirs.
D'autant plus qu'on ne voit pas tout à fait le mot l'École des loisirs sur la pochette de ce livre, et il y a par contre un sigle M+, ça signifie quoi?
M+, c'est pour Medium Plus, donc ça signifie, ça distingue la collection dans laquelle le roman est paru. À l'École des loisirs, en roman, nous avons aujourd'hui 5 collections. Les Moucherons, qui s'adressent aux tout-petits, donc les toutes premières lectures de CP, c'est une nouvelle collection qui a démarré en janvier, donc avec des textes très intéressants mais très simples, accessibles aux tout-petits lecteurs. Mouche pour les un tout petit peu plus autonomes, Neuf pour les lecteurs un peu plus aguerris de fin d'école élémentaire, les 8-10 ans à peu près. Et ensuite, les collégiens peuvent aller choisir des titres en médium, et à partir de la troisième ou du lycée, ado-adulte, on est chez Medium Plus. Donc ce texte-là, Home Sweet Home, s'adresse plutôt à des lecteurs d'environ 14-15 ans. Après, de très bons lecteurs plus jeunes, évidemment, pourront se faire plaisir, mais on est plutôt sur ce lectorat cible ado-adulte. Moi, j'aimerais beaucoup que ce texte navigue entre les parents et les ados et que ça crée du dialogue entre ces deux générations.
Qu'on échange effectivement sur la place de la famille, sur les revenus, la maison, le téléphone, enfin toutes ces choses-là qui font partie de notre vie, ou les paraboles. Ça a été le cas tout à l'heure.
Exactement.
De dire, tiens, à quoi ça sert les paraboles. Et donc, c'est un roman Home Sweet Home que l'on trouve partout dans les librairies. Je vous invite, je le rappelle, à le lire. C'est signé Alice Zénitaire et Antoine Filias. Et j'avais grand plaisir à recevoir Maya Michalon.
Merci beaucoup,
Maya.
Merci, François.
À très bientôt.